Attention, l'œuvre que vous allez entendre est immorale et peut choquer les personnes de tout âge. Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Se réveille en sueur, apeuré. Lui, Gilles, a passé une bonne nuit. Il est heureux. Frédéric est définitivement à lui, rien qu'à lui. Les jours passent. Lorsqu'ils se revoient, ils ne parlent plus de cette affaire. Mais Frédéric sent qu'elle plane entre eux. Un jeudi, dans la soirée, ils se promènent ensemble dans la rue. Gilles lui dit, « Tu vois, ça n'a pas été difficile. » Frédéric ne dit rien. Sans, il sait que ça a été difficile. Gilles lui dit, « Nous rentrons chez moi, finis la soirée. » Ma mère est absente et il n'y a pas de domestique. C'est leur jour de congé. Frédéric lui dit, oui, et ils y vont. Le soir tombe, les rues se vident, fait de plus en plus froid. Ils arrivent devant l'immeuble de la mère de Gilles. Gilles va ouvrir la porte de l'immeuble pour qu'il puisse rentrer. Ils vont prendre l'ascenseur. Arrivés à l'étage, ils sortent de l'ascenseur. Et Frédéric le fait rentrer dans son appartement. Les angles. Allons au salon. Et il le fait entrer au salon. Frédéric est surpris. Il y a un grand feu de cheminée. Je lui dis, j'aime le feu. Et j'en ai fait un avant d'aller te chercher. Si tu veux, on n'éclaire pas. Frédéric lui dit, oui, tu as raison. Il ne faut pas éclairer. Gilles le prend par la main et le mène devant la cheminée. Il y a à terre une peau de bête. Assieds-toi à terre. Frédéric s'y assoit sur la peau, en face du feu. Je lui demande, tu veux boire quelque chose? Frédéric lui dit, oui, j'ai envie de quelque chose. Je lui demande, de chaud, froid, du bourbon? Oui, du bourbon. Gilles s'éloigne. Il a disparu dans le noir de la pièce. Gilles regarde les flammes. Il est fasciné par leur mouvement. Tout d'un coup, il voit devant lui un bras avec un verre. Tiens! Il lève la tête, c'est Gilles, debout près de lui, deux verres à la main et une bouteille. Il prend le verre qu'il lui tend. Merci. Puis Gilles s'assoit à côté, à l'indienne. Il a mis la bouteille devant lui et regarde les flammes, puis boit une gorgée. Et s'allonge sur le dos à côté de Frédéric. Il n'y a que le bruit des flammes. La pièce est dans la pénombre. Gilles caresse le dos de Frédéric et lui dit « Allonge-toi ». C'est ce qu'il fait. Gilles lui dit en regardant les flammes. On est bien, n'est-ce pas? Frédéric lui dit, oui, c'est vrai, il se sent bien. Il se sent bien. Il s'est jamais senti aussi bien. La douceur du feu, l'alcool. Et puis, Gilles est près de lui. Il ne le voit pas, mais le sent. Et ça lui fait quelque chose. Il reste un moment sans bouger, ni se parler. Puis Gilles se soulève, pose son verre à terre et prend celui de Frédéric qui ne dit rien. et Frédéric voit le visage de Gilles se pencher sur le sien. Il ne dit rien. Gilles lui donne un baiser sur les lèvres. Frédéric ne bouge pas. Puis, Gilles lui caresse le bras, la poitrine. Descend. Descend sur son corps. Avec ses mains, puis défait la chemise de Frédéric, juste 3 boutons pour lui laisser une partie de sa poitrine et la baiser. Frédéric, surpris, se laisse faire. Ils ne se disent rien. Frédéric reçoit ses baisers et ses caresses. Et de temps en temps, Gilles lui prend une main et le fait passer sur son corps. Frédéric ne sait plus. Il est pris d'un plaisir suprême, un plaisir plus fort que le plaisir. Ils ne se parlent pas. Les baisers de Gilles sur le corps de Frédéric sont des baisers qui ouvrent la porte du paradis. Ils ne se disent rien. Tantôt Gilles le caresse, tantôt Frédéric le caresse. Pour Gilles, on ne peut pas dire que les baisers sur le visage et tout le corps, que ces caresses ne lui apportent pas du plaisir. Non. Mais l'essentiel, c'est qu'il le lui devait. Que c'est le devoir du chef de Dieu de lui offrir cela. Et cela lui permet qu'il s'unisse à lui. Pour ne faire qu'un, comme le roi ne fait qu'un avec son peuple, sa terre, comme les hommes s'unissent à Dieu dans la religion chrétienne en prenant l'hostie. Eux s'unissent directement par la peau et la pensée. Voilà pourquoi Gilles permet à Frédéric de le toucher, de le baiser, pour s'offrir à lui comme Dieu s'offre à ses fidèles. Gilles s'offre à Frédéric comme un Dieu pour que Frédéric soit à lui. Frédéric ne dit rien. Il sait ce qu'ils font. Et qui sont unis à jamais. Il ne faut qu'un. Parce qu'il faut. Pour aller au-delà des hommes. En s'unissant. Il accepte comme une offrande ce que lui fait Gilles. Et puis, ils sont ensemble. Tous les deux, ils sont semblables. En s'unissant, Gilles lui dit: ce crime est une toute petite partie de rien du tout. Ça a été trop rapide. Et pas eu vraiment l'impression de tuer. Des crimes comme ça, il y en a des milliers par an. Pour nous, il faut un bon, un vrai crime. Un vrai crime où l'on ressent vraiment ce qu'on a tué de ses propres mains, sans l'intermédiaire d'une machine. Frédéric panique. Il ne veut pas torturer une personne pendant des heures pour le tuer après. Gilles le voit, l'embrasse sur les lèvres et lui dit: plus tard, plus tard. Puis, il le caresse. Ils se sont endormis. Le feu, petit à petit, dans la cheminée, s'est éteint. Le froid réveille Frédéric. Le feu est éteint. Gilles dort à ses côtés. La pièce est dans la pénombre. Ils sont tous les deux nus, allongés à terre. Il y a encore de la fumée qui vient de la cendre. Gilles n'a pas le courage de se lever. Il se rendort près de son ami. Il semble pris dans un rêve. Le froid et quelqu'un qui secoue réveille Frédéric. Voit, penché sur son visage, le visage de son ami. Il a l'impression d'avoir un éblouissement et que cette nuit n'a été qu'un rêve. Il aimerait mourir et n'ose pas bouger. Gilles lui dit: lève-toi, le petit déjeuner est prêt, il faut aller au lycée. Il se retire. Frédéric sent un froid l'envahir. Il se lève. La pièce baigne de soleil. Gilles est habillé. Il est près d'une table où se trouve servi le petit déjeuner. Va à lui. Gilles le fait asseoir. Il ne se parle pas de ce qui s'est passé cette nuit. Frédéric se dit que c'était bien un rêve. Gilles le serre. Et lui dit, dépêche-toi. Après, il faudra te vêtir en vitesse et nous partons. La vie reprend. Tout à coup, Frédéric dit, que veut dire mes grands-parents que je ne suis pas rentré chez lui cette nuit? Gilles lui dit, tu leur diras que tu étais chez moi. Oui, la vie reprend. Ils ne se disent rien de ce qui s'est passé cette nuit. C'est comme si c'était rien passé. Carole est prise entre deux ivresses, l'alcool et Eric. Elle pense constamment à lui et le désire. Cette passion est due à cause de la peur de vieillir. Elle n'est pas vieille, mais elle croit que la vieillesse approche. Pour une femme, la vieillesse, c'est la peur de n'être plus désirée, belle. Et elle croit que tant qu'Eric est près d'elle, elle ne peut pas vieillir et les autres ne peuvent pas la voir vieille parce qu'elle a près d'elle un jeune homme. Elle ne se rend pas compte que d'avoir près d'elle un jeune homme, c'est appuyer son âge parce que les gens voient la différence qu'il y a entre elle et le jeune homme. Pour le moment, la différence d'âge ne choque pas parce qu'elle est encore belle et jeune. Et puis, elle ne se montre pas trop avec Eric. Mais si elle se montre, elle est obligée de le présenter comme son beau-fils, ce qui la fait tiquer. Lui, Eric, est fatigué d'elle. Il aimerait bien la laisser tomber. Mais elle continue à lui donner des rendez-vous dans son petit studio. En partant, elle lui dit toujours « À jeudi prochain !» Il ne lui dit rien. Mais il a peur que s'il n'y va pas, elle le dénonce à la police pour le meurtre de son père. Eric se dit en descendant les escaliers en vitesse « Quelle idée ai-je eu de la voir ? Maintenant, elle est constamment à me cramponner. » Elle crie du haut de l'escalier. « Je dis, je t'attends !» Il lui fait en soupirant. « Oui, à jeudi !» Et il sort de l'allée. Leurs relations deviennent de plus en plus violentes. puis fait l'amour en la tapant pour se venger. Elle accepte plutôt ça que de ne plus le voir. Un après-midi, dans le lit, après l'amour, elle lui dit « Je te promets, c'est que dès que le vieux sera mort, nous serons ensemble et tu hériteras de toute sa fortune. » Eric ne se voit pas vivre avec elle constamment. Il n'est pas prêt de voir son grand-père mort. Et puis, elle oublie une chose. Il lui dit, « Mais j'ai mon petit frère qui lui aussi va hériter. » Elle lui dit, « Lui aussi, nous l'éliminerons. » Eric en a froid de partout. Son Frédéric, il en a plus besoin que d'elle. Il lui demande, « Comment ?» Elle lui dit, « Il peut disparaître. » Eric lui dit, laisse-moi m'en occuper. Elle lui dit, et moi je m'occuperai du vieux. Fin de la deuxième époque. J'en suis à la page 1776. Et ça fait 8 pages de résumé. J'ai décidé de faire avancer un peu plus l'histoire. Vous avez compris que c'est une histoire tout à fait amorale. Et que c'est la plus chaude de toute l'histoire de la radio. Et que ne peut être écoutée que par un public averti. Mais cette histoire immorale devient morale parce qu'elle nous démontre jusqu'où peut aller des personnes qui sont sans moralité et que la morale humaine est utile. Nous sommes le 2 janvier 2001 et 19h. Je suis fatigué après cette journée de travail. J'ai hâte, c'est de me coucher. Je n'ai qu'une envie, c'est de dormir et ne rien faire. J'en ai assez de travailler. Et j'ai peur que cette année soit une année très mauvaise année pour moi. Mon frère, qui a une tumeur au cerveau, quitte l'hôpital de Trévoux. Il parle, marche et peut se servir de son bras gauche. On l'a mis dans une maison de retraite à 46 ans. Pour combien de temps? Je souhaite que ses jours soient le mieux possible. Mais au milieu de vieux, un homme de 46 ans, même s'il est malade. Marc, le fameux Marc de mes histoires, m'a téléphoné à la radio hier. Cela m'a fait peur, parce que chaque fois que je le vois ou qu'il me téléphone, il me fout la poisse. Et c'est vrai. Pourtant, ce n'est pas un garçon désagréable, mais il me fout la poisse. Chaque fois que je le vois, tout va mal. Je faisais des films, dès qu'il est revenu, je n'en fais plus. Je ne peux plus en faire. À la radio, il a fait venir des amis, ses amis à lui, et ça a été le bordel et ça l'est toujours. Cela fait presque 20 ans que je connais, mais que j'ai eu comme malheur chaque fois que je le voyais. Pourtant, je ne crois pas aux choses paranormales, mais lui, il me fout la poisse. Alors, j'ai peur pour cette année, qu'elle soit mauvaise pour moi. De toute façon, plus on vieillit, et plus on a de mauvaises nouvelles. Le temps passe, et un matin, on devient un vieux con. Et moche. Et ce qui fait le plus mal, c'est que les autres vous rejettent. À part, bien entendu, les vieux moches. Mais des vieux moches, on n'en veut pas. On veut être entouré de jeunes, de vie. Malheureusement, la jeunesse, la vie, vous pousse vers la sortie. On se demande à quoi ça sert de vieillir de plus en plus vieux, parce qu'on vous rejette de plus en plus tôt hors de la société. On vous dit de plus en plus tôt que vous êtes trop vieux pour ceci ou cela. Place aux jeunes, et les jeunes vieillissent de plus en plus jeunes tellement vite qu'ils ne s'en rendent pas compte. Mais il y a une chose invraisemblable, c'est qu'ils restent adolescents très très tard. Et cette adolescence qui dure est insupportable. On préférerait que ce soit l'enfance ou l'âge adulte qui dure le plus longtemps. Mais non, c'est l'âge bête, l'âge où on se croit intelligent, où l'on est con comme un balai. Moi, mon adolescence, si j'en ai eu une, dans le sens du terme, elle n'a pas duré bien longtemps, de 14 à 18 ans, comme tous les jeunes de ma génération. Et on allait travailler à 14 ans pour faire des 60 heures et même plus. Et beaucoup plus. Et on n'avait que 3 semaines de congé. Maintenant, on traite des grands dadais de 16-17 ans d'enfants. Et l'on crie au scandale si des pays les font travailler. On a la mémoire courte. Il est vrai que ceux qui nous dirigent ont tous des fils. Et sont tous des fils de bourgeois, qu'ils ont tous fait leur université et appris la vie du peuple en lisant des livres, en buvant du whisky, le champagne, de la gauche caviar. Fin de l'entracte. L'été est là et toute la famille va au château dans le Val-de-Loire à Saint-Servin sur une hauteur. Toute la famille y va, Auguste, Amélie, Eric, Frédéric qui boude parce qu'il aurait aimé rester à Paris ou partir en vacances avec son ami Gilles. Et même Caroline, Carole va en vacances avec eux. C'est pour rester près d'Eric. Elle a peur de le perdre. Ils ont pris plusieurs voitures avec les domestiques. Une voiture, Auguste, sa femme et ses deux jeunes, les deux jeunes gens. Une autre, Carole, et celle des domestiques et bagages. Ils sont partis en début juillet. De toute façon, Paris se vide. Des gens bien, l'on part. Il n'y a plus de soirée, de rendez-vous, de thé, de théâtre, concert, ni... de courses de chevaux, rien. Bientôt, cette chose populaire, le Tour de France, va venir, va faire son apparition dans Paris, sans compter le 14 juillet. 14 juillet, si pittoresque qu'à la campagne. On voit des gens du coin s'amuser, danser. Mais à Paris, c'est d'un mauvais goût. Et dire que le président de la République y participe et organise des festivités à l'Élysée. Le pauvre, recevoir le peuple, ça doit beaucoup l'ennuyer. Heureusement que les gens que lui faut auront déjà quitté la capitale. C'est pour cela que les Borges quittent la capitale. Ils vont se terrer dans leur château. Pourquoi ? Ils pourraient se payer un voyage ou louer quelque chose quelque part. Mais non, ils se disent que quand on a un château, il faut s'en servir. C'est comme les gens qui ont une maison à la campagne, même s'ils s'y ennuient, ils se sentent obligés de passer des vacances dans ce bled. Un bled perdu et s'y ennuyer à mourir. Le voyage est long, très long, parce qu'il fait chaud. Il est difficile de trouver de l'essence et un endroit pour manger, une auberge. Ils n'ont pas amené à manger, ça ne se fait pas. Ni à boire d'ailleurs. Pour déjeuner, ils déjeunent dans une auberge près de la route. C'est affreusement cher et pas très bon. Pas trop propre non plus. Ils sont arrivés en fin de journée, épuisés, et chacun est allé dans sa chambre. Les deux garçons sont retournés à la tour. Frédéric n'est pas content. Il sait qu'il va être à la merci de son frère. Et la vie commence. Auguste part à la pêche. Sa femme se repose et s'occupe du jardin. Bien entendu, elle reçoit des amis pour le thé. Elle dit: Carole s'ennuie. Elle n'aime pas la campagne. Elle n'a qu'une occupation, c'est de voir Eric. Elle l'épie et le coince. Eric aimerait bien s'échapper, être un peu seul. Mais il faut toujours qu'elle soit près de lui. Quand il sort de la tour, elle est dans le parc. Va à lui. Lui demande: Où vas-tu? Il lui dit: Je vais me promener. Elle lui dit: Je vais avec toi. Il lui dit: À force d'être toujours près de moi, on va avoir des ennuis. Elle lui dit: Penses-tu? Elle le prend par le bras. Il aimerait bien être seul. pour surveiller son frère. Ils se mettent en marche. Elle lui demande « Qu'est-ce que tu as ?» Il lui dit « Rien, rien du tout. Tu n'es pas heureux de me voir, que je sois près de toi ?» Il lui dit « J'aimerais un peu de solitude. » Elle lui dit « Tu m'aimerais vraiment ? Si tu m'aimais vraiment, je ne chercherais pas de solitude. » Il lui fait « Tout le monde a besoin d'être seul. » Elle lui fait « Eh bien, moi non. Lorsque je suis seul, j'ai peur. » Il lui dit « C'est parce que tu n'as pas confiance aux autres. Tu crois que si tu ne les vois pas, ils vont t'oublier. » Elle lui dit « Mais c'est ce qui me risque de se faire. » Il lui dit « Il risque de le faire si tu es constamment près d'eux. » Parce qu'ils vont se lancer. Elle le regarde furieuse et lui dit « Et pourquoi tu me parles comme ça ?» Il dit comme ça, elle lui dit. Moi qui t'ai sacrifié, moi qui ai sacrifié mes vacances pour être avec toi, elle lui dit. Je ne l'ai pas demandé. Elle lui dit, petit salaud, tu profites de moi, va, parce que tu es le plus jeune, mais tu verras. Il lui demande quoi? Elle lui dit. Je peux en trouver un autre? Il se dit, mais ça pourrait bien être vrai. Elle lui dit, et puis, non, tu serais bien trop heureux que je te lâche. Il lui dit, mais vraiment, tu t'imposerais pas comme ça. Elle lui dit, oui, je t'aime, la preuve, j'accepte toutes tes humiliations. Il lui dit, c'est parce que tu le veux. Moi, je t'aime pas. Je ne cherche pas à t'humilier. Elle lui dit, mais tu le fais comprendre. Il lui dit, écoute, je veux pas passer toutes mes vacances comme ça. Détends-toi, occupe-toi. Elle lui dit, et quoi? Il lui dit, occupe-toi toute seule. Elle lui dit, mais dans ce bled pourri? Il lui dit, aide ma grand-mère. Elle lui dit, ta grand-mère, cette vieille folle, méchante. Il lui dit, eh ben écoute, si tu veux, pour te détendre, fais du vélo. Vois les environs, seul. Oui, pourquoi pas. Et toi? Non, j'aime mieux être près de toi. Il lui dit, eh bien, reste près de moi, mais ne me fais pas des scènes. Je ne fais rien. Tu n'as rien à me reprocher. Et soupir, il lui dit, bien, je serai sage, parce que tu me le demandes. Nous allons où? Il lui dit, du côté de la Loire. Et ils y vont. Il fait chaud, très chaud. Il n'y a presque personne dehors. Frédéric préfère rester enfermé dans sa chambre. Il aime mieux lire que de sortir et puis aller où? Là au moins, les livres le dépaysent vraiment. Souvent, dans la journée, il repense à sa mère. Qui a vécu ici, seul et misérable. Il se dit qu'il ne l'a pas assez aimée qu'il aurait dû plus aller la voir malgré l'interdiction de ses grands-parents et de son père. Pauvre mère, comme elle a dû souffrir. Sa chambre reste fermée à clé. Eric aussi, en passant devant sa chambre, y pense. Il l'aimait vraiment, et c'est la seule personne qu'il a aimée d'une façon pure. Mais cette pureté a été troublée par la jalousie qu'il avait pour son frère. Croyait qu'elle le préférait à lui. Un matin, Auguste reçoit une lettre. Il la lit en prenant son petit déjeuner. Il dit à sa femme: John, viens pour quelques jours chez nous. Amélie lui dit: ça fait longtemps que je ne l'avais pas vue, celle-là. Elle reste combien de temps? Il lui dit: elle ne le dit pas. Il faut faire préparer sa chambre. Elle arrive quand? Il lui dit: dans 2 jours. Toute la famille est domestique. Sont prévenus de l'arrivée de la tante Jeanne. Frédéric se dit: encore cette folle. Et le jour de son arrivée arrive. Elle arrive en début d'après-midi, en voiture rouge. Nous vous avons présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.